Destination Compostelle, une émission préparée par Martine Dufour.
Saint-Privat d'Allier à Sogue. L'étape est courte, 19 km, mais éprouvante, avec des dénivelés importants. La journée commence par une légère montée vers Rochegude. De là-haut, on admire la faille remarquable que présente la vallée profonde du Haut-Allier. Puis suivra une descente sévère dans les rochers et les racines vers Monistrol, où le parcours traverse la rivière Allier. Quand le parcours vers Monistrol d'Allier, le regard ne peut s'empêcher de voir en face Esclusel, surplombant la falaise, où il faudra monter, monter. Et c'est vrai, d'aucuns prétendent que cette ascension est un des efforts les plus redoutables du chemin de Compostelle. Heureusement, à partir de Montor, la pente se fait plus douce. On entre alors en terre des mystères, le Gévaudan, cette région de la Margeride longtemps hantée par la terrible bête du Gévaudan. Insensiblement, nous quittons le Velay pour un autre univers, celui de la Margeride et du Gévaudan. La marche n'en est cependant pas modifiée pour autant. Il faut s'y faire. Le chemin de Compostelle est ainsi. À toute descente succède une montée qui elle-même engendre une nouvelle descente. Le chemin de Compostelle aime jouer les farceurs. Quelques centaines de mètres plus loin, le même refrain. À la sortie de Saint-Privat d'Allier, le GR65 quitte le goudron pour descendre abruptement dans un mauvais chemin de grosses pierres qui peuvent être très glissantes en cas de pluie. Un panneau annonce d'ailleurs qu'il vaut mieux y renoncer par temps humide. Tout cela pour se tremper les pieds dans un ruisseau sans importance, le ruisseau de la Planchette. Puis remonter en pente raide pour rejoindre la route. À la sortie d'un sous-bois, le chemin arrive au hameau de Combrieux. Ce hameau, c'est une poignée de maisons massives, construites en pierre volcanique. Lorsque l'on entend « roche volcanique », on voit une roche sombre. Ces roches sombres, on les appelle « basaltes » au sens large. Mais c'est de la simplification, car même les basaltes comprennent une famille de roches très variées. De plus, de nombreuses roches volcaniques sont claires ou prennent des teintes variées, loin de l'idée qu'on s'en fait au départ. Les tufs, les dacites, les trachytes, que l'on voit ici, au milieu des pierres noires de basalte, en sont un bon exemple. Si vous voyez ces maisons de loin, vous pourriez même vous imaginer qu'elles sont faites de calcaire. Ce n'est pas le cas. Ensuite, le chemin rejoint dans les genêts la petite route qui mène à Rochegude. La route conduit en montée légère vers ce village. Le parcours fait des yo-yo constants, en haut de la route, au bas de la route, sur la route. Rochegude est un jet de pierre, un ancien village fortifié qui a longtemps joué le rôle de sentinelle avancée pour détecter les ennemis potentiels venant du Gévaudan. Rochegude se limite à quelques maisons de pierre adossées à la montagne. Vous ne croiserez que rarement une présence humaine dans ces hameaux qui semblent désertés pour la plupart. Vous aurez sans doute plus de chance de croiser d'autres pèlerins comme vous, arrêtés pour le pique-nique. Les maisons sont pratiquement soudées les unes aux autres, recroquevillées et courbant l'échine sous la puissance de la montagne qui surplombe le village. Autrefois, le donjon attesté du XIIIe siècle était la propriété de la famille auvergnate des Montlaure. Seule, une tour reste du château qui était une halte incontournable pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle au Moyen-Âge. La tour, vaniteuse mais touchante de détresse, se lève encore sur une aiguille rocheuse qui surplombe les gorges de l'Allier. Une petite chapelle romane, construite au début du XIVe siècle et dédiée à Saint-Jacques de Compostelle, domine aussi le village. Elle est perchée sur le belvédère rocheux. La vue sur le haut Allier est à couper le souffle. L'horizon est barré de forêts sans fin. L'espace s'ouvre sur la trouée de l'Allier, avec ses hautes falaises et sa vallée étranglée. En face, il faudra bien y monter bientôt pour ressortir du goulet de l'Allier. À partir de Rochegude, le chemin dévale sévèrement. Plus de 100 mètres de dénivelé dans les rochers et les racines. Au début, le chemin descend sous la chapelle, dans les buissons, les frênes, le long des murets et des ronces. Puis on voit poindre les pins, les chênes et les hêtres. Quand le chemin s'approche de la descente vertigineuse, avec des pentes par endroits dépassant nettement les 40%. Parfois, la pente semble se réduire un peu, mais modestement. Le chemin continue de descendre, tantôt sur une sente étroite, tantôt sur le granit. À Praclos, nous sommes à mi-descente. Les rochers font place à la campagne, villages dont les maisons sont massives, où rutilent les pierres volcaniques. Personne, ou pas grand monde à première vue, doit vivre ici, derrière les volets clos. Le GR65 traverse la plaine à travers un chemin herbeux, parfois embourbé par mauvais temps. Il y a peu de culture ici, dans la campagne bardée de hauts pylônes. Quelques dizaines de mètres sur le goudron et à l'angle d'une majestueuse ferme en pierre, le GR65 retrouve un chemin. Plus bas, le chemin rejoint la route de Praclo, au lieu-dit le Vivier, et à près d'un kilomètre de Monistrol d'Allier. Ce petit village, caché sur le bord de la rivière, à l'entrée d'une gorge profonde. La route descend jusqu'à traverser l'Allier au fond de la gorge. On voit en face, Exclusel, où il faudra bientôt monter. Monistrol d'Allier est un petit bijou de village à Califourchon sur l'Allier. Hélas, c'est aussi un barrage et une usine électrique. Le village, cerné de gorges vertigineuses dans une région difficilement accessible, s'étire le long de la rivière. La route, le rail et la rivière se rejoignent ici. La départementale D589 ne passe pas dans le village, passant sur un pont neuf au-dessus de l'Allier. Un autre pont aussi va au village. En 1887, une année avant la construction de la Tour Eiffel à Paris, Gustave Eiffel construisit ici un élégant pont de métal vert.
Je suis parti au petit jour, avec le vent, avec le ciel, un peu de peine, un peu d'amour, sur les chemins de Compostelle. Les pierres anciennes par le bas, sous mes souliers fatigués, la brume glisse entre les croix, et l'aube vient tout apaiser. Je laisse au loin le bruit du monde, les jours trop lourds, les mots blessés. Ici mon cœur revient au calme, au rythme simple du sentier. Sur les chemins de Compostelle, je marche lentement vers la paix. Entre les cloches et les chapelles, je sens mon âme se relever. Sur les chemins de Compostelle, la France murmure sous mes pas, et dans la lumière fraternelle, je redeviens un peu plus moi. Des mains m'offrent un bout de pain, un sourire au creux d'un village, un regard doux, presque rien, mais qui réchauffe le passage. Les champs dorés, les vieilles pierres, les toits penchés sous le soleil me disent en silence et en prière que l'espérance réveille. Sur les chemins de Compostelle, je marche lentement vers la paix. Entre les cloches et les chapelles, je sens mon âme se relever. Sur les chemins de Compostelle, la France murmure sous mes pas, et dans la lumière fraternelle, je redeviens un peu plus moi.
« Depuis Monistrol, c'est une montée presque continue de 6 km jusqu'à Montaure. La sortie de la vallée est décrite comme une épreuve difficile parmi les plus marquantes de la Via Podiensis. Quel plaisir pour commencer plus de 150 mètres d'ascension sur 1 km jusqu'à Esclusel, avec parfois des pentes à peine supportables pour des retraités. Il n'a pas d'ondulation de terrain, ce n'est que de la montée sur le goudron et sur un sentier pierreux, le long des bords de la gorge. Au début, ça n'a l'air de rien. Le chemin zigzague, en pente sévère sur le bord de la falaise, sur de gros cailloux qui glissent sous les pieds. Au milieu des buissons, des chênes rabougris, des frênes, des hêtres et des rejets de châtaigniers. Mais il n'y a aucun danger ici, même si le chemin passe au bord de la falaise. Le GR quitte la route pour traverser un large chemin, se dirigeant vers la chapelle de la Madeleine au-dessus. C'est là que la pente devient sérieusement sévère. Les pentes vont bientôt avoisiner les 30 à 40%. Le chemin atteint donc la chapelle troglodyte de la Madeleine. Une chapelle dédiée à Sainte Marie-Madeleine est mentionnée dans un texte ancien daté de 1312. Est-ce ici, dans cette faille du rocher, que l'on croit aussi avoir été une habitation celtique? Au XVIIe siècle, on construit un fronton pour boucher le trou et le transformer en chapelle, qui gagna rapidement en notoriété. Des colonnes de basalte dominent cette chapelle troglodyte. Placée sur le chemin du pèlerin, elle est une halte bienvenue après une sévère montée. À partir d'ici jusqu'à Esclusel, que du bonheur! Un chemin encore plus pentu, à plus de 40% de déclivité, sur de grossières marches d'escalier, conduit le marcheur un peu plus haut, au hameau d'Esclusel, avec ses maisons de pierre au bord de la gorge. Esclusel possède de remarquables maisons faites de tous les tons des pierres volcaniques. Comme un nid d'aigle, le hameau s'enroule fièrement sur les perrons rocheux. On se demande comment il tient par miracle, suspendu au-dessus du vide. Le GR65 traverse le village et suit une route, toujours en pente soutenue, au-dessus du village, dans les vergers et les noyers. Après Esclusel, la montée n'est pas terminée, peu s'en faut. Au lieu-dit les Varennes, à une dizaine de kilomètres de Sogues, le GR65 quitte la route pour un large chemin de terre. Apparaissent alors, à nouveau, les conifères, les pins en particulier. Commencent les épingles dans la forêt. Il faut compter un bon kilomètre pour arriver à Montaure. Le chemin va faire de nombreux zigzags dans la forêt, sortant parfois dans de rares clairières où s'expriment les fougères, presque aussi hautes que de petits arbres. La pente est rude, parfois excessive, et le pied peut manquer d'assurance sur les talus raides. La montée doit être rude pour de nombreux marcheurs. Et depuis Montaure, la pente se fait douce au milieu des prairies luxuriantes, des fermes parfois isolées. Une route monte tranquille depuis le hameau. Ce qui est saisissant dans l'étape du jour, ce sont les contrastes notoires. Nous sommes sortis de la profondeur des gorges taillées par l'Allier, des pentes rudes, pour nous retrouver maintenant sur de douces collines. Sans y prendre trop garde, le paysage se modifie en quelques kilomètres. Le granit de la Margeride succède peu à peu au basalte du Devès. Ici, pas de montagnes grisâtres et escarpées ou de précipices vertigineux, mais de vastes pâturages dont le sommet est couronné de hautes forêts. De belles vaches d'Aubrac nous font signe de leurs yeux maquillés de noir. La route de terre se rapproche vite du hameau de Rosiers, puis le Vernet. Le GR65 avance encore un peu en pleine nature, dans le sentier étroit sous les pins et les frênes. À l'entrée de Rognac, à 1100 mètres d'altitude, le point le plus élevé de l'étape, nous sommes en Gévaudan, à la limite de la Margeride, une chaîne de montagnes qui culmine à 1551 mètres, au signal de Randon. À la sortie de Rognac, le GR65 monte encore un peu tout droit sur le goudron en pleine campagne. Mais rapidement, il bifurque dans un petit chemin de forêt étroit qui amorce une descente continue vers Sogue. Le chemin descend, sans discontinuer, sur les pierres et la terre battue, avant de deviner dans un proche horizon Sogue et ses toits rouges. Si vous passez ici après le printemps, vous verrez les genêts en fleurs. Dans le paysage apparaissent d'étranges sculptures en bois marquant les mystères du Gévaudan. Sculptures en bois géantes. La méchante bête sanguinaire surgissait imprévisible, égorgée à qui mieux mieux, dévorait les enfants dont il ne restait que des restes sanglants. Tout était terreur dans le pays. Même le frémissement des buissons dans le vent ou le craquement des branches dans les sous-bois annonçait le drame. Ces monstres étranges, taillés d'un seul arbre, marquent à la fois l'austérité et le mystère de la région. Sogue, avec ses 2000 habitants, est célèbre donc pour sa bête de Gévaudan, pour ses champignons, pour ses sabots de bois. Mais Sogue, c'est aussi un important marché de bétail. Le marché des bovins a lieu le lundi et il est le marché des ovins le vendredi. Ici, on traite plus de 100 000 têtes de bétail par année. L'église collégiale de Saint-Médard conserve sa tour orthogonale originale datée du XIIIe siècle. L'église fut en partie détruite au XVIe siècle, puis amendée progressivement. Elle contient les reliques du frère Bénilde, un saint local béatifié puis récemment canonisé. La confrérie des pénitents fut fondée à Sogues en 1652. La confrérie fait partie des confraternités d'essence catholique, avec des statuts qui préconisent des exercices de pénitence, tels le jeûne, l'assistance aux défunts et aux malades. On les classe en fonction de la bure que les pénitents arborent lors des processions ou leurs travaux de pénitence. Ici à Sogues, la robe est blanche. Au XIXe siècle, la communauté comptait 200 personnes. Aujourd'hui, il en demeure 40. La procession du Jeudi Saint avec les pénitents encagoulés est un événement exceptionnel. La chapelle des pénitents, que l'on peut visiter sur demande, fut érigée en 1681. Malheureusement, elle brûla en 1788, mais fut restaurée par la suite.
Destination Compostelle, une émission préparée par Martine Dufour.